Donc on est dans notre quatrième cours, sur le Perek Yudbet, sur le chapitre 12. Dans le chapitre 12, on parle, c'est un chapitre central dans le Tanya. Et c'est au moins, je suis content qu'on le fait avant les vacances. Donc c'est un chapitre dans lequel on nous parle de la personnalité du Benoni. Alors, puisque je sais que la personnalité du Benoni a beaucoup marqué Michael, je demande à Michael, qu'est-ce que c'est un Benoni pour lui? Toi, oui, toi.
Un type qui ne fait pas de Avera, mais qui est sans arrêt sollicité par son Yitzhara.
Mais est-ce que concrètement, il a des pensées négatives?
Oui, toute la journée.
Non.
Non, qu'est-ce que ça veut dire pour toi des pensées négatives?
Est-ce qu'il a des pensées tordues dans la tête?
Non, il est repoussé.
Il arrive, mais il les renvoie.
Il a des pensées tordues qui lui arrivent tout le temps dans la tête, mais concrètement, il est en train de les renvoyer. Alors, on avait posé la question au cours précédent, et ça fait deux cours aussi. On avait dit qu'a priori, quand on étudie l'histoire du Benoni, on pourrait penser que le Benoni est un Superman. Que c'est impossible, qu'il pourrait jamais réussir. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? Qu'en vérité, le Benoni utilise une arme que nous avons tous, et qu'on n'utilise pas assez. C'est quoi? C'est l'arme de la volonté. On a tous en nous quelque chose, un cadeau, qu'un cadeau, je crois, nous a créé. Encore plus que la volonté. C'est le fait que Dieu a créé dans notre corps, Razak.
Voilà.
C'est bon?
C'est bon,
allez, Rabotem, on s'installe. C'est le cadeau que Kadosh Baruch Hu, d'accord? C'est bon? Allez, installez-vous en bataille. Azek. Page 173. Il y a un livre ici, tiens. C'est comme ça en été, on commence plutôt à moins quart, hein, parce que comme Arvid dit plus tard. Voilà. Ok. Donc on est en train de dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné à tous les hommes, sans exception, un cadeau exceptionnel qu'il n'a pas donné aux animaux, qu'il n'a même pas donné aux anges. Qui est le cadeau du Mohar Shalit Alalev, du cerveau qui domine le cœur. D'accord? Le cerveau, retenez ce terme-là parce qu'il reviendra plusieurs fois dans le Tanya. Le cerveau qui domine le cœur. Ça veut dire qu'après 120 ans, on va arriver en haut auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va nous poser des questions. Il va nous dire comment ça se fait que tu as fait ta Averot. Ah, tu veux dire, écoute, tu comprends, dans l'environnement dans lequel je me suis trouvé, la situation dans laquelle j'étais, tu comprends, je peux pas m'en vouloir. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va me répondre? On va dire, c'est vrai que tu es dans une situation difficile, mais on t'a donné les outils. C'est vrai que tu étais dans un terrain qui était très compliqué, mais tu étais un excellent joueur. On t'a donné les manières de jouer comme un pro. Et t'as joué comme un bleu, d'accord? Voilà.
Ils ont perdu.
Eben. C'est quoi un clip, pardon?
Hein?
C'est pour ça qu'on dit ça.
Tu parles de jeu. Benji? Benji, tu connais une clip?
Je connais rien du tout au foot. D'accord?
Benji?
Donc, on va développer ça après, dans la suite.
Non, parce qu'ils en ont mis une dans Israël.
Clipa, non, c'est le dôme de fer.
Ah, c'est ça?
173. Donc ça veut dire quoi? Clip, je crois que tu parles de Clipa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui explique ici l'Admor Hazaken, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné un cadeau au Benoni exceptionnel, qui est le cadeau du Mohar, et pas qu'au Benoni, à tout le monde. Il a donné le cadeau du Mohar Shalit Alalev, du fait que le cerveau domine par définition le cœur. Et donc, il n'y a pas d'excuse. Quand le Benoni, comme nous, il a des pensées tordues qui lui tombent dans la tête, qu'est-ce qu'il doit faire? Son cerveau doit dominer son cœur. C'est-à-dire que le cerveau doit être capable de dire stop, no more, laisse-moi tranquille avec cette pensée. Et personne ne peut me décider à ma place ce que je vais faire. Personne. Ça peut être dur, mais personne ne peut décider à ma place ce que je vais faire ou ce que je vais penser. Ni ce que je vais penser, ni ce que je vais dire, et ni ce que je vais faire. Marshava dibour maase. Ça, c'est la première arme qu'utilise le Benoni. Deuxième arme, on l'a pas encore développé la deuxième arme, ça on l'a développé un tout petit peu. C'est le fait que le Benoni, il sait que quand il était dans un état d'esprit de Kedusha, ça aura un impact, pas seulement au moment où il est en train de faire la mitzvah, mais même les quelques minutes, les quelques heures après qu'il a fait la mitzvah. Ça, on l'a commencé à développer, on l'a pas encore développé. C'est la notion que, par exemple, après Kippour, pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, selon les personnes, tu es encore dans l'ambiance de Kippour. Quand tu as fait une bonne fila, quand tu sors d'un Shabbat, pendant quelques heures, tu es encore dans l'esprit de Shabbat. Vous savez qu'il y a des gens qui arrivent pas à dormir après Shabbat.
Ouais. Ah ouais.
Tellement ils sont dans l'ambiance du Shabbat et tellement c'était très fort ce qu'ils ont vécu, ils n'arrivent pas à dormir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple, d'accord,
que après, ouais, c'est à cause de la sieste,
quand vous avez comme ça, un Simchat Torah, ou bien même une fête, il n'y a pas d'alcool, d'accord, vous avez t'as du mal à t'endormir tellement c'était puissant ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle en Kabbalah la notion du Réchimou. C'est quoi le Réchimou? Réchimou, c'est les traces, d'accord. Monsieur Elbaz, on vous attend. Ah, ah, je sais. Parce que je sais que tu veux suivre.
Des verres. Ouais.
Faites la place aux anciens. Vous savez, monsieur Albas, que vous êtes notre doyen en ce moment. Vous êtes notre doyen. Ah, je sais. J'ai dit, vous êtes notre doyen. Vous êtes notre doyen.
Ah, bah voilà, oui.
Hein? Attends, vous voulez. Il y a la chose de mettre en face parce qu'il a. Monsieur Albaz, vous voulez venir ici? Parce que s'il n'est pas en face, il n'entend pas. Ouais.
On peut un jour le concept de. Quand tu dis.
Mohar Shalit à l'élève. Oui. Toujours. S'il est fou, il est fou.
Le vrai, c'est qu'il y a des gens qui peuvent pas se contrôler, ils se mettent à hurler dans la rue.
S'il est fou, il est fou. S'il est fou, il est hors concours.
Mais il est fou, il peut tuer quelqu'un comme ça. Bon.
Je t'expliquais. C'est comme par exemple si quelqu'un me demande, me dit une fois, un enfant m'a posé la question. Il m'a dit, il y avait quelqu'un qui s'était suicidé, Dieu préserve. Et il a dit, comment tu peux expliquer ça à un enfant? Une personne s'est suicidée. Il dit, pourquoi il a fait? Comment tu expliques ça à un enfant? Alors j'avais entendu une fois un rave qui a dit quelque chose de très simple, mais pour moi c'est brillant. Il a dit, il faut lui expliquer que de la même manière qu'il y a des gens qui sont malades dans le corps, il y a des gens qui sont malades dans la tête. C'est tout. Quand une personne est malade, il s'est cassé un pied. Tu comprends ça pourquoi il s'est cassé un pied? Ben, il est malade. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont malades dans la tête. Tu comprends?
Il n'y a pas que des malades qui se suicident.
Bon, c'est une maladie. C'est une forme de maladie.
C'est
une maladie. C'est une forme de maladie. Pour moi, c'est pas une maladie. C'est une maladie. La dépression, c'est une maladie. C'est remboursé par la Sécu.
La dépression, oui.
Des fois, sur un coup de tête,
bon. Pour fermer la parenthèse. Donc, le Benoni, il a deux armes. Rappelez-vous. Première arme qu'a le Benoni, c'est quoi? C'est le fait que le Benoni, il a ce cerveau qui domine le cœur. Deuxième arme qu'il a, qu'on va développer tout de suite, c'est le fait qu'il sait se mettre dans des conditions qui vont laisser des traces le plus longtemps possible. Et donc ça, en vérité, là, on va donner des exemples qu'il va donner ici, comme la tefila, mais en vérité, chacun de nous doit utiliser des techniques qu'il connaît. S'il sait, par exemple, que quand il vient à un cours de Torah, et bien pendant quelques heures sur les Tzahara, il laisse tranquille. S'il sait, par exemple, que quand il va rendre visite aux malades, pendant quelques heures sur les Tzahara, il laisse tranquille. S'il sait que quand il fait la mitzvah de Bikur Avem, d'accord, de Kibbud Avem, de respecter, de rendre visite à ses parents, et bien après ça, c'est le calme. Chacun se connaît. Chacun connaît les mitzvot qui le marquent le plus. Et bien le Benoni, comme il se connaît, il essaye de faire un maximum ces mitzvot-là qui le marquent, pour rester un maximum possible de temps dans l'ambiance de la mitzvah. Parce qu'on part de la base que l'ambiance de la mitzvah me protège. Seulement, ça dure pas longtemps. D'accord? Alors là, il va donner les exemples de la tefila. Pourquoi? Parce que la tefila est une mitzvah qui, à n'importe quel moment de la journée et n'importe quel jour de l'année, elle a la capacité de te mettre dans une ambiance de kedusha. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres mitzvot. Je vous donne un exemple. Tous les matins, je mets les tefilines. Baruch HaShem. Théoriquement, les tefilines, ça aurait dû me mettre dans une ambiance extraordinaire. De me dire, je soumets mon cœur, mon esprit à Kadosh Baruch Hu. Dans la pratique, c'est pas le cas. Et même si demain matin, je vais me lever, je décide que ça y est maintenant, dorénavant, tous les matins, ce sera comme ça, probablement, ce sera pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement quelques mitzvot qui ont cette capacité, qu'à n'importe quel jour de l'année, n'importe quel moment, elles ont cette capacité de te faire décoller. Une de ces mitzvot-là, c'est quoi? C'est la tefila. Voilà pourquoi on fait tous les jours, trois fois par jour la tefila. Ça vous paraît pas bizarre qu'on fait trois fois par jour la même tefila? Est-ce que vous savez pourquoi on demande qu'on fait trois fois par jour la même fila?
C'est pas toujours la même.
Est-ce que c'est pas blata? Attendez, dis-moi. Tu répètes trois fois par jour le même message.
Non, c'est pas toujours la même.
Vous savez pourquoi? Ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Parce qu'en vérité, les rachamim se disent, si au moins une fois par jour t'as percuté la tefila, c'est déjà pas mal.
Ouais. Simplement pour ça.
C'est pour ça, c'est la raison principale.
C'est quelqu'un qui est un vrai. C'est pour ça que les femmes, elles ont. Un vrai tzaddik qui fait
non.
Une bonne tefila.
Les femmes sont exemptées parce que c'est des bons titans.
C'est quelqu'un qui a un bon.
Concrètement, on le fait tous trois fois, mais une des raisons, c'est parce qu'on te dit, si on arrive, les rémus se disent, il faut répéter, parce que si tu percutes une fois, ce sera pas mal. C'est un peu comme les commerciaux. D'accord? Un commercial, il va s'arranger pour te répéter le même message de plusieurs manières différentes, et il va te le refaire passer, parce qu'il se dit, peut-être qu'une fois, il va percuter. Et encore. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se répète, parce que finalement, ça finira par rentrer, on finira par percuter. Donc, deuxième technique qu'on va développer aujourd'hui, la technique du Réchimou. Alors, on va apprendre un mot aujourd'hui en hébreu. Réchimou, c'est en araméen, ça vient du mot hébreu qui, Rochem. Rochem en hébreu qui veut dire une trace. D'ailleurs, en passant, quand on, dans les tefilot de Rosh Hashanah Yom Kippour, on demande à Dieu d'enlever toutes les xérotes, toutes les décrets, et on lui demande d'enlever même les traces des décrets. Parce qu'un décret, ça laisse des traces. Quand Dieu nous envoie, Dieu préserve une épreuve, il y a l'épreuve et il y a les traces que ça laisse après. Les traces peuvent durer, les séquelles, ils peuvent durer des années. Donc si c'est valable dans le mal que les séquelles d'un malheur peuvent durer des années, et ben c'est la même chose dans le bien aussi, que les séquelles d'une mitzvah, d'accord, les restes d'une mitzvah, les traces d'une mitzvah peuvent m'aider à me battre contre mon yetzer hara, du fait que le yetzer hara, il se dit celui-là c'est pas le moment de l'attaquer parce que maintenant il est dans l'ambiance de sa mitzvah. OK? Ah, c'est l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans les mots. Rak, seulement. Donc, je suis à la page 173. L'étude du 17 Tevet. Rak, seulement. Chez Lazé, Moïl Areshimu Bamochin. Pour ça, va servir la trace Bamochin dans son cerveau. La trace de la mitzvah qu'on vient de faire, qui est restée dans mon cerveau, de ce que je viens de vivre. Veirat Hashem Veavato Amsuteret Bechalal Ayemani. Il y a une trace qui reste dans mon cerveau, il y a une trace qui reste dans mon cœur. Dans mon cerveau, il reste une trace de ce que j'ai pensé. Dans mon cœur, il reste une trace de ce que j'ai senti. Par exemple, je suis venu à un cours de Gemara. Pendant 2 heures, on a parlé sur quelque chose qui était très compliqué, on a tourné dans tous les sens. Après les 2 heures, je ne serais pas capable de te répéter de quoi on a parlé. Tu dis, vas-y, tu fais un cours de 2 heures, ben maintenant parle pendant 2 heures. Même pas 5 minutes, tu arrives à sortir. Mais comment c'est possible? Tu as écouté un cours de 2 heures, tu n'as pas capable de répéter 5 minutes? Alors, tu n'étais pas au même cours, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, c'est que des fois, ce qui va se passer, c'est que je ne suis pas capable de répéter le cours, mais il me reste une trace, un réchimou. Il reste une trace du cours dans la tête que, voilà, je suis dans une ambiance, je ne sais pas trop de quoi ça a parlé, je n'arrive pas à répéter maintenant, mais il reste une trace. C'est une trace dans la tête. Il y a des choses qui nous restent une trace dans le cœur. Je te donne un exemple. Tu es parti voir un tzaddik. Tu étais chez le rabbi. Tu as passé 30 heures. On dit, bon, répète en 5 minutes maintenant ce que tu as vécu en 30 heures. Tu n'es pas toujours capable. Tu dis, comment? Tu n'es pas capable en 5 minutes de répéter ce que tu as vécu en 30 heures? Comment c'est possible? C'est quoi la réponse? La réponse, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on a vécu dans notre cœur, mais qu'on n'est pas capable de répéter. Par contre, il reste une trace dans le cœur. Donc, c'est la notion des traces. Des traces dans le cerveau de ce qu'on a compris, des traces dans le cœur de ce qu'on a ressenti. Et ça, en vérité, notre vie, c'est plein de ça. Je vous donne un exemple. Vous envoyez, comme on a parlé la semaine dernière, vous envoyez les enfants en école juive. D'accord? Les enfants, maintenant, ils ont pratiquement fait, combien ils ont fait? 8 mois d'études? Combien ils ont retenu sur les 8 mois? D'accord? Combien d'heures de Kodesh ils ont fait en 8 mois?
Vous répétez toute la matinée.
Combien d'heures de Kodesh? Allez.
7 heures par semaine.
On fait 4 heures par jour.
7 heures par semaine.
On va dire qu'ils ont fait 200 heures de Kodesh?
Même pas, une centaine.
D'accord? Ça serait bien?
Combien? 250 heures.
D'accord. J'espère, ça serait bien. D'accord?
Bah,
qu'est-ce qu'ils ont retenu de ça? Tu as fait 200 heures de codage, qu'est-ce que tu m'as répété? Toi, en tant que parent, tu poses la question. Tu dis, c'est mon enfant, c'est un investissement, qu'est-ce qu'il a retenu? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que c'est très possible que l'enfant ne sera pas capable de te répéter même 1 minute. Alors, à quoi ça a servi? Ce qui a servi, c'est que ça a laissé une réchimou. Ça a laissé une trace. Ça a laissé une trace dans sa tête. Et cette trace-là, elle vaut de l'or. D'accord? Vous savez, en passant, je fais une petite parenthèse. On dit que lorsque Kadosh Baroukh a voulu créer le monde, la lumière avec laquelle il a voulu créer le monde était tellement puissante que c'était impossible de créer le monde avec ça parce que la lumière était trop puissante et qu'on aurait été tellement ébloui, ça n'aurait pas tenu. Qu'est-ce qu'a fait Kadosh Baroukh? Il a enlevé, il a fait une contraction, mais ça on aura l'occasion de développer plus tard. Il a enlevé cette lumière et simplement avec la trace de la lumière qu'il y avait avant, ça suffit déjà pour nous faire vivre. La trace de la lumière, les séquelles, bien sûr. Les traces.
Ah, c'est une trace. Trace de la lumière.
Mais ça, je rentre pas dedans. Ok?
Oula.
Pour montrer à quel point c'est important les traces. Les traces, le réchimou. Ce qu'on appelle en hébreu le réchimou. Bien sûr. Fait une trace. On laisse des traces. Les hitgaber velishlot ala raze amit ave tava, shelo liatlo shlita memshela beir leotsi tavato mikoach ala poel et klabesh bevaragouf. Ça veut dire comme ça. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le Benoni, il a fait cette fila. Il a vécu une fila extraordinaire. Il a fait une mitzvah, il a vécu sa mitzvah. Ensuite, le Yetzahara, il ne lâche pas, ne croyez pas qu'il le lâche, il vient l'attaquer. Seulement, comment il répond à son Yetzahara? Il lui dit, ça se fait pas. Je reviens de chez le rabbi. Ça se fait pas. Je viens de faire une bonne fila. Qu'est-ce que tu mets ça dans la tête maintenant?
Et ça lui suffit.
Pendant quelques heures, quelques jours. Plus le moment qu'il a vécu était puissant, et plus il arrive à jeter son Yetzahara. Mais le problème, c'est que ça dure quelques heures et quelques jours, ça. Et qu'après, t'es obligé constamment de renouveler. Donc, quelle est la technique du Benoni? Le Benoni, il essaye de se mettre constamment, un maximum possible de temps, dans des situations qui lui laissent des séquelles. Comme ça, grâce à ça, le Yetzirah ne l'embête pas trop. Parce qu'il sait qu'en vérité, c'est très très dur à se mettre contre le Yetzirah. Donc, théoriquement, en vérité, le Benoni aurait pu compter sur la première arme, qui est qu'en vérité, le cerveau domine le cœur. Mais comme le Benoni, il est exécrant comme nous, et qui sait que dans la pratique, dans la vie de tous les jours, quand le Yetzer Hara, il t'attaque bien, et il te prend au piège, et il t'attaque, il te fait pas une petite attaque, pac! Tu mets un truc dans, il te met des attaques énormes. Alors, comme il sait que c'est tellement compliqué, qu'est-ce qu'il fait le Benoni? Le Benoni, il se dit, je sais que si je compte que sur mon cerveau, j'arriverai pas. Si je compte que sur ma volonté, j'arriverai pas. Il faut me mettre dans des conditions. Comment je me mets dans des conditions? Je me mets dans des ambiances, dans des mitzvot. D'accord? Nous, on est tous au niveau de Benoni. On peut tous devenir au niveau de Benoni. C'est à la portée de tout le monde. Parce qu'on peut tous, ça s'accessible à tout le monde. La volonté qui domine, le cerveau qui domine le cœur, ça s'accessible à tout le monde. Se mettre dans une ambiance pour être protégé, ça s'accessible à tout le monde. D'ailleurs, en passant, vous savez, c'est pour ça que j'insiste beaucoup aux gens qui viennent le matin. J'insiste beaucoup pour qu'ils essayent de venir à un cours de Torah, même une demi-heure. Vous savez, c'est très difficile le cours d'une demi-heure qu'on fait le matin. Parce que les gens, ils ont la tête forcément à leur boulot. Vous savez, pour se concentrer, pour réussir à se concentrer une demi-heure, c'est pas facile. Et la Gemara, elle insiste beaucoup sur étudier la Torah un petit peu le matin avant d'aller au travail. Pourquoi? Parce que quand tu commences la journée comme ça, ça laisse une trace sur toute la journée. Oui? Si directement tu as commencé la journée avec, bon, allez hop, les clients, quelle séquelle va te rester? Il faut gagner de l'argent. Bah, dans ce cas, tu vas dire, bon, mais pour gagner de l'argent, on va passer par des méthodes un peu biscornues. D'accord? Mais quand tu as commencé la journée avec la Torah, et que la Torah était ton repère, quand après le Yetzer Hara avait tombé des bêtises dans la tête, tu dis, attends, doucement. Ce matin, j'étais en cours de Torah. Ce matin, j'ai fait la tefila. Ce matin, j'ai mis les tefilines. Ce matin, j'ai amené mes enfants à l'école juive. Tu me racontes pas des histoires dans la tête, maintenant. Au moins quelques heures. Et c'est pour ça qu'après Pâques, Minra, on recommence. Arvit, on recommence. Parce que, pourquoi on a de recommencer? Parce qu'on sait que l'effet d'une tefila est seulement de quelques heures. Donc, on a besoin constamment de renouveler.
Donc, vous l'intérêt d'arrêter la journée Minra, pas la faire, on le fait ici, c'est dingue, c'est pas le choix.
On n'a pas le choix. Normalement, Minra, il faut le faire au milieu de la journée. Pourquoi? Parce que pourquoi? C'est très simple. La réponse est très simple. Parce que on essaye de faire en sorte que d'une fila à l'autre, on garde l'effet de la fila d'avant. C'est comme ça qu'il travaille le Benoni.
Parce que si on fait Minra suivi d'Arvid, donc à ce moment-là.
Dans ce cas-là, on fera le schéma du soir. Voilà, à la maison.
C'est pratique, comment ça?
Et c'est très important, la notion des traces. Ok? Mais ça, vous pouvez l'appliquer. Vous savez, vous pouvez appliquer ça pas seulement. Vous pouvez appliquer ça pas seulement dans la tefila, mais même dans l'éducation. Par exemple, il y a des fois, hein, on a envie de grouper les devoirs des enfants. De dire, par exemple, bon, bah, le dimanche, ils vont faire Pâques tous les devoirs de la semaine du Kodesh. Bon, pour ceux qui ont des enfants, ils doivent savoir ce que c'est. D'accord? Et c'est ce qu'ils font. La vérité, qui ne le fait pas? Seulement, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, il y a quand même un bienfait d'essayer de faire en sorte que l'enfant étudie même une ligne, deux lignes de Kodesh tous les jours, à la maison. Alors même si c'est pas les devoirs principaux, parce que bon, les soirs on sait qu'on est fatigué, qu'on n'aura pas la tête disponible comme le dimanche, donc c'est bien de le faire le dimanche. Moi le premier, j'essaie de grouper un maximum les devoirs le dimanche pour essayer de faire en sorte qu'au moins là on sait que c'est fait. Mais on essaye quand même tous les jours d'avoir un peu de Kodesh. Et même dans les écoles, vous remarquerez que dans les écoles, dans toutes les écoles juives, on essaye de faire en sorte que tous les jours il y ait du Kodesh. Alors bon, il y a des écoles qui font le matin, je sais que dans nos écoles à nous, Chabad, le rabbi avait demandé qu'on commence le matin par le Kodesh. Parce que le matin, c'est là que la tête est la plus fraîche. Tout le matin. Au moins le matin. Mais en tout cas, je sais que dans toutes les écoles, ce que j'ai entendu, on essaye de faire en sorte que tous les jours, il y ait un peu de Kodesh. Pourtant, on aurait pu dire, on fait le Kodesh le lundi, et après mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Le Chol. Pourquoi on fait pas comme ça? Parce qu'à mon avis, c'est par la notion de Réchimou. Parce que chaque jour, il faut qu'il y ait du Kodesh. Parce que chaque fois que tu as du Kodesh, elle laisse une trace dans la journée. Et ça change la journée. Monsieur Bismuth, on vous attend? Hein? Moi aussi. Voilà.
Non, mais ici.
Non, je plaisante.
Non, mais ici, là.
Oui.
Il y a un jour dans la semaine où ils commencent le matin. Et ils font la tchila et après ils font deux heures de Kodesh le matin.
C'est très bien. En tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir du Kodesh tous les jours. Même quand vous êtes en vacances maintenant. Les enfants sont en vacances. D'ailleurs, vous savez qu'en passant, le rabbi, il avait beaucoup parlé sur les grandes vacances. Il a dit, il comprend pas comment ça se fait qu'on laisse les enfants en dehors de l'école pendant 2 mois. Il a dit, il comprend pas. Et le rabbi, plusieurs fois, il a dit que les dégâts que ça fait deux mois de laisser les enfants comme ça sans étudier et sans être occupé, on peut casser avec ça le travail d'une année entière.
C'est pour ça qu'il faut
l'oisivité.
Et
c'est pour ça que le rabbi avait lancé les Gan Israël. D'accord? Il avait lancé les Gan Israël pour essayer de limiter la casse. Il a dit, en vérité, normalement, ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû faire comme ça toujours été, dans les pays Ashkenaz, dans les pays Sfarad, qu'il n'y a pas de vacances.
Il n'y a pas de vacances, exactement.
Il n'y a pas de vacances. Les vacances, c'est pour les fêtes. Pour Tishri et pour Nissan, on a un peu de vacances. Pour Pessah, on a un peu de vacances. Il n'y a pas de vacances. Seulement, il dit le rabbi, comme maintenant, dans la pratique, on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas dire ni aux professeurs ni aux enfants qu'il n'y a pas de vacances. Alors, on va donner les vacances, mais on va s'efforcer de faire le Gan Israël. C'est quoi le Gan Israël? C'est la Torah dans la joie. C'est avoir en même temps du Kodesh et en même temps des loisirs. Mais en vérité, normalement, ça c'est seulement Bediavat, c'est seulement a fortiori. Normalement, on aurait dû continuer à l'école. Et on continue à payer l'école. Alors. Oui. Ah oui.
C'était dans Chabad.
Oui, moi, c'est échelonné en 12 mois. Donc, normalement, on aurait dû faire comme ça. Et d'ailleurs, je me rappelle, bon, maintenant ça a changé, mais je me rappelle quand on était au Cheder à mon âge, quand j'étais au Cheder, à l'époque, on quittait le Cheder, c'était en général toujours vers les alentours du 20 juillet. 20, même des fois 25 juillet. Voilà. Ça a changé maintenant. Bon, parce que maintenant c'est plus compliqué. Mais pourquoi? Parce que comme le rabbi a demandé, donc on quittait le Cheder vers les 20-25 juillet. Et je sais que aux États-Unis, j'ai des amis qui sont là-bas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des Cheder qui ferment pas du tout, mais c'est très rare. D'accord? Et il y a des Cheder, ce qu'ils font, en fait la majorité des Cheder, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient les enfants dans des camps. Des camps, d'accord? C'est des sortes de colonies. Les enfants, ils vont 2 mois de colonie. Et tous les matins, ils ont un programme demi-journée Kodesh. Et après l'après-midi, bon, ils ont rafting, tout ce truc-là, etc. Parce que le rabbi dit, on peut pas laisser les enfants dans l'oisivité pendant 2 mois. C'est pas possible de laisser quelqu'un rien faire pendant 2 mois. L'oisivité, c'est une personne. Ça, c'est l'approche du rabbi. Et d'ailleurs, même quand on était à la yeshiva de Brunois, on n'avait qu'une semaine, et c'est encore comme ça, on n'avait qu'une semaine de vacances, dans les grandes vacances. Une semaine, c'est tout. Et avec ça, il nous la mettait en général pendant les 9 jours. C'est comme ça. D'accord, pendant les 9 jours de Tisha B'Av. Après, ça c'était à mon époque. Pour vous montrer comment les générations ont descendu, je dis mon époque, je suis encore jeune, Baruch HaShem. Mais maintenant, ça a déjà changé. Maintenant, ils se sont rendus compte que pour les élèves, la yeshiva, c'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont laissé une semaine de vacances, c'est passé à 10 jours. Mais à part ça, ils ont fait que, ils essayent de faire chaque année que 2-3 semaines, ils amènent les Bachouri Yeshiva à la montagne et que la Yeshiva est à la montagne. D'accord? Comme c'est, pour changer d'air. Mais pour montrer qu'en vérité, on part de la base de ce que le rabbi a expliqué, ce qu'on est en train de dire ici. Que tu peux pas laisser quelqu'un, sans études. Parce que c'est la notion du Réchimou. La notion du Réchimou, c'est la notion de la trace. Qu'on est obligé constamment, tous les jours d'avoir de l'étude, parce que c'est ça ce qui laisse des traces sur le reste de la journée. Quand tu prends un enfant, tu lui enlèves toute la Torah, tu le laisses pendant 2 mois sans étudier la Torah, sans être occupé, et tu le laisses à faire ce qu'il veut. Après, tout d'un coup, il arrive à l'école, tu dis bon, maintenant, ça y est, c'est fini les vacances, maintenant, il faut se mettre à travailler toute la journée. Il dit, mais j'arrive pas. Pendant 2 mois, j'ai fait ce que j'ai voulu. Oui, oui. Ça marche pas? Ça veut dire qu'après, dans la tête de l'enfant, qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'il retient l'enfant dans sa tête? Il retient que l'école, c'est nul, les vacances, c'est bien. C'est ça ce qu'il retient l'enfant. C'est vrai?
Ah ouais.
Qui n'a pas compté quand on était à l'école combien de jours avant les grandes vacances?
Les adultes aujourd'hui, les premiers, ils attendent les vacances avec impatience.
C'est pas la même chose. L'adulte, il attend les vacances pour se reposer. L'enfant, il attend pas les vacances pour se reposer. Il attend les vacances pour jouer.
Bah, les deux.
Et pour se lâcher. C'est pas la même chose. Non, l'adulte, il attend les vacances parce que c'est un repos qui est mérité. Et il attend pour se reposer. Et pour retrouver sa famille. Oui, mais l'enfant ne le voit pas comme ça. L'enfant, il le voit comme un moment où on va se lâcher, on va, ça y est, c'est fini, on enlève la...
Qui le voit de cette façon-là, je suis d'accord, mais ça change pas.
Bon, en tout cas, voilà. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, de toutes les façons, vous savez, il y a des choses que le rabbi, aussi fort, aussi puissant qu'il était, il y a des choses qu'il a compris qu'on pourra pas changer. Comme la notion des grandes vacances. Il a dit, il y a plusieurs choses comme ça qu'il a dit. Par exemple, il a dit, si je pouvais, je l'aurais annulé. Il l'a pas fait, il l'a pas annulé. Parce qu'il a compris que dans la pratique, c'est pas possible, c'est pas faisable. Mais néanmoins, il nous demande de faire attention à essayer de faire en sorte d'avoir des gagnes Israël. Et même si c'est pas des gagnes Israël, moi je me rappelle quand j'étais petit, tous les matins, ma mère, elle nous faisait, quand on commençait le matin, avant même de commencer la journée, tous les matins, on avait toujours notre programme. Quand j'étais petit, hein, même, je veux dire, 5, 6 ans, on avait la Tfila et un Tehilim. On commençait pas la journée sans ça. C'est-à-dire, on discutait, mais même pas on discutait où on va aller sans ça. C'est tous les matins. Et ça m'est resté dans la tête. Ça m'est resté dans la tête. Moi, encore aujourd'hui, je dis à ma femme et à mes enfants, je dis, il faut faire comme ça. On commence pas la journée tant qu'on n'a pas fait la tefila et un teilim. Les choses te restent dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il faut partir de la base que chaque journée, elle doit avoir son réchimou. La trace de la journée. Ce qui va laisser une trace dans la journée, c'est l'étude de la Torah et la tefila que je vais faire le matin. D'accord ? Je donne des... On essaye de prendre les enseignements concrets, pratiques pour la vie de tous les jours. Donc, le Benoni, deuxième technique qu'il a, c'est quoi ? Deuxième technique qu'il a, c'est quoi ? C'est la technique de du Rechimou, de laisser des traces. Je continue. Va filou bemoach levado learer bara en lo shlito mamshala la rechas shalom b'tzino shibemocho. Maintenant, il explique que le Benoni, il fait un effort pas seulement au niveau de l'action, pas seulement au niveau de la parole, pas seulement au niveau de la pensée, même dans ce qu'on appelle un hir-our. Vous savez ce que c'est un hir-our ? Hir-our, on va dire, j'invite à traduire en français, une arrière-pensée.
Une arrière-pensée ?
Une arrière-pensée. C'est un hir-our, c'est une pensée très lointaine. Une pensée que j'ai au fond de ma tête. Eh bien, le Benoni, même ça, il va faire attention. Il va donner des exemples. Un exemple très simple. D'abord, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut avoir comme arrière-pensée négative dans la tête ? On peut avoir une arrière-pensée à penser à des choses pas bien, comme les femmes, etc. On peut avoir aussi une arrière-pensée de signe A, de haine. Vous savez que c'est une interdiction de la Torah de haïr quelqu'un dans son cœur.
De haïr un juif ?
Haïr un juif.
Et
un juif.
Le Pen, ouais.
Ah, un juif. On n'a pas le droit. Qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que je fais si je le hais maintenant ? Quelqu'un, il m'a fait une crasse.
Oui, c'est fait une crasse, alors.
D'accord ? Je lui en veux grave. Et même, tu sais quoi ? Je dis rien. Je fais rien. Et à la limite, j'y pense pas. Mais au fond de ma tête, j'ai une arrière-pensée qui me dit... Ah, ah, ah,
ah. Il va nous massacrer.
Une arrière-pensée. De haine. Je le hais, ce bonhomme-là.
Il y a de quoi ?
D'accord, il y a de quoi ? Qu'est-ce que tu dis à la Torah ? La Torah, tu dis, c'est assourd. Tu n'as pas le droit. C'est assourd. Tu n'as pas le droit. Dès que la pensée te vient à ta tête, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois enlever cette pensée. Comment on est la vie de pensée ?
Comment ?
En pensant à autre chose. On change de chaîne. D'accord ?
On zappe.
Tu zappes. On va donner des exemples. Parce que, retenez ce qu'il va expliquer ici. C'est un point qu'on a expliqué plusieurs fois. Que l'avéra démarre à quel instant ? L'avéra démarre dès l'instant où je pense volontairement à la chose. Combien de fois ça nous arrive ? Combien de fois ça nous arrive ? Qu'on pense à quelque chose, pendant plusieurs secondes, on pense à une pensée qui n'est pas cachère, sans se rendre compte. Alors quand je dis pas cachère, ça peut être un lachanara, ça peut être quelque chose de pas cachère. D'accord ? Ça s'appelle pas cachère ça aussi. Et j'y pense pendant quelques secondes, et après, au bout de quelques secondes, je me rends compte que je suis en train de penser à quelque chose de pas cachère. Et là, à ce moment-là, j'ai le choix. Soit je vais décider de continuer, et donc là, à ce moment-là, chaque seconde qui passe, c'est une avéra. Soit je décide de m'arrêter, et chaque seconde que je vais me battre contre mon yetzer hara, ça va être une mitzvah. Mais toutes les secondes que j'ai pensé sans me rendre compte, est-ce que c'est une avéra ? C'est ni une avéra, ni une mitzvah. Parce que l'avéra démarre dès l'instant où je me suis rendu compte. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Benoni, je vais être un peu explicite. C'est-à-dire que le Benoni, c'est possible qu'il a fait une tefila excellente. Baruch HaShem. D'accord ? Il a fait une tefila extraordinaire. Le Benoni, d'accord ? Il a fait une tefila extraordinaire. Ensuite, il sort. Il voit une pub pas très cachère. Et pendant quelques secondes, sans se rendre compte, il se retrouve à penser à une idée pas cachère. Pas cachère. Alors qu'il sort de la tefila. Et pac, tout d'un coup, il percute. Il dit, mais mince, qu'est-ce que je fais là ? Alors, il a envie de te dire, mais attends, dis-moi, comment une pensée comme ça peut me tourner dans la tête? Et c'est là que le Benoni, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va le rassurer tout de suite, on va lui dire, c'est normal que ça tombe dans la tête. Et toi, ce que tu dois faire maintenant, c'est le repousser. Et ne pas penser même une fraction de seconde. Chaque seconde qui passe, que je continue à penser à la chose intentionnellement, je fais une avéra. Pareil. Quelqu'un, il m'a fait une crasse. Je fais tout pour repousser de ma tête. Je suis dans mon lit, je suis allongé, et je me dis, bah, dis donc, celui-là, quand même, hein. Et je me mets à dire, celui-là, il va voir ce que je vais lui faire, et je me mets à me mettre à penser à des pensées de haine. Qu'est-ce qu'il fait le Benoni ? Le Benoni, il va essayer deux choses, comme on va expliquer dans la suite. Soit il va essayer de se dire, non, mais quand même, il faut voir les qualités qu'il a, et quand même tout ce qu'il m'a rendu comme service. Mais des fois, le Benoni, il sait que c'est pas la bonne approche, parce que la crasse est tellement grave, que il y a aucun bienfait qui peut couvrir la crasse qu'il m'a fait. Alors qu'est-ce qu'il fait le Benoni dans ce cas-là ? Il pense autre chose. Il pense autre chose. D'accord ?
Mais ah ouais.
Est-ce qu'il doit l'aimer ?
Alors ça peut être, quand je parle d'une autre personne, ça peut être même sa femme. Sa femme qui l'a embêté. Comment elle a pu me faire ça ? Il peut commencer à se monter dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait le Benoni ? Il comprend qu'il a pas le droit d'y penser à ça.
C'est une question,
Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va sortir.
Oui. Est-ce qu'on doit l'aimer ? Est-ce qu'on a une idée de l'aimer ou on pense pas à lui ?
On l'aime pas.
Vous en avez la question de Mick ? Vous en avez la question ? De Menachem. D'accord ? Il faut aimer le bien qui est en lui.
C'est dur, attends, arrête. Il n'y a pas de bien, mec. C'est un peu dur.
Il n'y a pas de juif qui n'a pas de bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. Un juif qui n'a pas de bien, ça n'existe pas. Impossible.
Ah ouais?
C'est pas possible.
Je peux donner un exemple.
C'est pas possible.
Je peux donner un exemple. Avant, à l'époque, il y avait une philosophe juive, d'accord, qui elle-même publiait des pamphlets antisémites, d'accord. Bon. C'est-à-dire, c'est elle-même l'a contribué indirectement à ce climat qui a amené un choix. Et on peut pas. On peut pas aimer une personne.
Elle a certainement des circonstances atténuantes et elle a certainement des bons côtés aussi dans sa personne. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas des bons côtés. Sinon, attendez, je vais dire quelque chose d'important. Sinon, c'est un malade. Comme les malades qui ont tué l'arabe. Pour moi, ça, c'est des malades. Ils ont fait un Khilou Lachem comme ça n'a pas été fait depuis des millénaires. Il faut le dire. D'accord ? Et c'est des malades. Parce que c'est pas normal. Parce qu'un juif, d'accord ? Pourquoi c'est pas normal ? Parce qu'un juif, il réfléchit pas comme ça. Un juif, il réfléchit pas comme ça. C'est tout ?
Ils pas confirmé, en fait.
Quoi mais c'est confirmé,
c'est mais c'est même pas comparable à ce qu'ils sont en train de faire là.
C'est la même chose.
Bah, j'ai vu une vidéo tout à l'heure avec mon père. On voit les Kassam, ils en envoient 50 par
minute. Oui, mais quel rapport, ça change pas. Bien sûr que nous, on n'est pas parti fêter dans les rues quand on a appris qu'un arabe a été tué. D'accord. On n'est pas parti fêter ça dans les rues, mais quand même, c'est quelque chose. C'est un Khilou Lachem, qui est d'une gravité. Il n'y a pas eu depuis des millénaires, il y a fait quelque chose comme ça.
Là. Mais eux aussi, hein.
Bon, on peut plus dire maintenant, nous on n'est pas comme ça. Bon, je referme la parenthèse. Pour expliquer que ça n'existe pas un juif qui n'a pas de bon côté, sinon c'est un malade. Un malade, bon, il est malade, qu'est-ce que tu veux, il est malade dans la tête, qu'est-ce que tu veux faire? Les gens qui sont malades.
De quelle manière tu lui fais comprendre qu'il est malade?
Mais il y a des gens qui sont malades, il faut les interner.
Il
faut les interner.
Il y a des gens intelligemment malades.
Aujourd'hui, c'est des gens malades. Ok. Ils sont malades. Ils vont être en prison à vie, qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr. Ils sont malades.
Bon, Charles Berlin, ce qu'il a fait.
Ils sont malades, c'est des gens malades. Mais la prison. Déjà, il faut l'interner, il est dangereux.
Voilà, mais l'interner, mais c'est pas le mettre en prison.
Il faut l'interner. Tu penses qu'on peut le. Ok. Dans les mots, qu'est-ce qui fait le Benoni Rabotai? Allez, on va revenir à notre sujet, d'accord? C'est juste une petite parenthèse que je voulais. Non, mais c'est important pour moi de préciser ça parce que j'ai entendu des choses dernièrement là, des gens qui commencent à dire oui, etc. La vengeance, ça n'existe pas dans la Torah, ça. C'est pas de la vengeance. Il faut bien mettre clair dans la tête. Il faut enlever ça de la tête. C'est des choses très très graves. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est quelque chose de très 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 grave. D'accord? C'est un comportement animal. C'est quelque chose de très très grave. Il y a pas de place dans le judaïsme pour ça.
Même au meurtrier,
on peut pas. C'est-à-dire, on peut même pas comprendre le geste qu'ils ont fait. Malgré la situation subie en Israël, on peut pas comprendre que des.
On ne répond pas à un meurtre.
Non, je suis d'accord.
Alors, on va continuer justement. Non, mais attendez. J'avais prévu d'en parler parce que justement, on parlait du Benoni. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait le Benoni lorsqu'il a un sentiment de vengeance qui lui monte à la tête? C'est ça la question. Je vais répondre à la question. Qu'est-ce qu'il fait le Benoni lorsqu'il a un sentiment de vengeance qui lui monte à la tête? Notamment, il va lui donner un exemple. D'accord? Il va lui donner un exemple. Imaginez l'exemple de Yosef avec ses frères, parce qu'il va donner cet exemple. D'accord? Yosef, ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu in extremis, Zerma Chesed, au lieu de le tuer. Ils voulaient le tuer, ils voulaient sa peau. Et in extremis, au lieu de le tuer, ils ont été gentils avec lui, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté. Et ça, c'était gentil. Maintenant, Yosef, avec la force des choses, bien sûr, Ashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu, il se retrouve à être, lui, en position de force. C'est très, très compliqué, la situation dans laquelle il est. Ça veut dire que la roue tourne et qu'il a tous les moyens de les écraser. Et leur faire ressentir, ne serait-ce qu'un petit peu,
ce qu'il leur a fait.
Et encore plus, comme on va expliquer dans la suite, il a toutes les raisons de le faire, parce que, d'abord, parce que c'était un sentiment de vengeance, qu'on m'a expliqué que c'est assourd, mais il a toutes les raisons d'avoir l'envie de le faire. Et en plus, même si c'est pas un sentiment de vengeance, de leur montrer comment il a ressenti. Il dit, je veux qu'ils comprennent ce que j'ai ressenti. Et on va voir comment Yosef va réagir. Vous allez voir que Yosef, il garde une sérénité extraordinaire, à tel point que le Zohar, quand il prend comme exemple une personne qui se retient, qui c'est qu'il prend comme exemple? Yosef.
J'ai entendu un cours. D'accord.
J'y arrive. L'inverse. Pas du tout, je vais voir tout de suite.
Wesley Yosef. Tu dis que quelqu'un qui te fait du mal, si tu lui rends pas la chose,
Wesley Yosef.
Il ne pourra jamais sentir ce que tu as fait quand lui il te fait mal.
Tu lui as expliqué qu'il t'a fait du mal, on ne rend pas du mal. Elle décolle une droite, tu lui décolles une droite. Voilà. On tend pas l'autre joue, mais c'est pas chez nous ça. Non, on tend pas l'autre joue, on se défend, d'accord. Mais c'est pas mon rôle à moi de le punir pour qu'il comprenne ce qu'il m'a fait. Ça c'est le rôle de la Kadosh Baruch Hu. Alors, mais on n'a pas répondu là. Je suis juste. Non, pas du tout. C'est pas à moi de faire la justice. On peut pas faire justice soi-même. On n'a pas le droit. Non, c'est pas moi de. Non, parce que là, c'est un sentiment de vengeance. La vengeance n'existe pas chez nous, ça n'existe pas. Donc, écoutez la question qu'on se pose. On a une question très simple à se poser maintenant. Qu'est-ce que fait le Benoni? Parce que le Benoni, c'est quelqu'un qui peut être un monsieur de tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait le Benoni quand il a un sentiment de haine, de vengeance, il a envie de se battre, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait pour repousser ça?
Il faut le canaliser ailleurs.
L'exemple qu'on va prendre maintenant, c'est l'exemple de Yosef avec ses frères. D'accord? Yosef, il a toutes les raisons au monde, soit de se venger, soit de montrer, d'accord? De montrer, dit, je veux leur montrer ce qu'ils m'ont fait. C'est, à la limite, c'est noble, ça. Dire, je veux leur montrer ce qu'ils m'ont fait, soit pour qu'ils ne recommencent pas, soit au moins pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait.
D'accord? Ils ont regretté.
Alors, Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, c'est un ordre de la Kadosh Baruch Hu qu'il a, comme ça dit Rashi. Il reçoit un ordre de la Kadosh Baruch Hu de les faire patienter, mais il fait tout pour ne pas les faire souffrir et pour ne pas utiliser sa position de force pour leur dire, ah, vous avez vu, maintenant je suis votre frère, maintenant vous allez voir comment je vais vous faire souffrir. Et c'est pour ça que quand ils craquent, d'accord, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur dit, je suis votre frère, Ani Yosef. Et il fait tout pour rester chesed. Et ça, c'est un exemple que le Zohar amène. Le Zohar, c'est quelque chose qui nous a tellement marqué dans le judaïsme, que le Zohar n'a pris comme exemple ni Moshe Rabbeinu, ni personne d'autre. Qui c'est qui a pris comme exemple? Yosef Hatzadik. Parce que Yosef, c'est l'exemple d'une personne qui a souffert et que, il a, comment il a répondu à la souffrance? Il a répondu à la souffrance par la Emouna à Kadosh Baruch. Regardez Yosef. Je vous donne un autre truc avec Yosef. Qu'est-ce qu'on va chez Yosef? Il est en prison. En Égypte. Pourquoi il est en prison? Il est en prison parce qu'on le soupçonne d'adultère avec la femme de son maître. D'accord? Potiphar. Ça veut dire que normalement il a aucune possibilité de s'en sortir. Pourquoi? Parce que personne vient lui rendre visite. Et personne n'est intéressé par lui. Ça veut dire qu'il peut rester là-bas. Ad vitam aeternam. Il n'y a pas de visite. On est déjà dans l'ancien temps. D'accord? Il n'y a pas de visite. Il est là-bas. Il est juste dans un coin. Là, c'est une sira que le rabbi a vu une fois. Il dit, regardez Youssef. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fois, une personne, deux personnes qui font un rêve.
Les chansons.
D'accord? Maître et chanson, maître panotier. Yosef, il se réveille le matin, et il voit que ces deux personnes-là ne sont pas bien. Il voit, ils font la tête. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il leur pose la question, il leur dit, Madoua penechem raim ayom. Pourquoi vous n'êtes pas bien? Pourquoi vous avez une sale tête aujourd'hui? Eux, ils vont répondre, vous connaissez la suite de l'histoire. Bon, ils vont raconter leur rêve, ils vont leur décrypter leur rêve, etc. Mais le rabbi dit, nous, on se préoccupe à la suite de l'histoire, comment il a décrypté le rêve, est-ce que le rêve s'est bien passé comme ça? Mais il dit, mais il faut s'arrêter au début de l'histoire. Comment Yosef, il est d'un tel niveau, que eux qui ont des visites tous les jours et qui ont des gens qui viennent les voir et qui savent qu'un jour ils sortiront parce qu'ils savent qu'on les connaît. D'accord? Ils sont pas bien. Yosef, il les voit, il leur dit, pourquoi vous n'êtes pas bien? Mais s'il y en a un ici que vous n'êtes pas bien, qui devrait être pas bien ici? C'est Yosef. C'est lui qui a toutes les raisons d'être déprimé. Et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement qu'il n'est pas déprimé, peut-être qu'il est déprimé, mais en tout cas, il est assez ouvert, d'accord? Assez attentif pour faire attention au fait qu'une autre personne ne va pas bien et pour essayer de l'aider. Je ne sais pas si vous imaginez comment c'est extraordinaire. Là, déjà, on a toute l'histoire. Même si on n'a pas la suite du décryptage, on a déjà toute l'histoire ici. Pour nous montrer que c'est quoi Yosef. Yosef, c'est une personne qui ne répond pas à la haine, il ne répond pas à un problème en tombant dans la déprime et en essayant de répondre par d'autres problèmes. Yosef, il se dit, il a la émouna, que s'il est tombé dans une situation comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis dedans. Et que s'il y a quelqu'un qui doit être puni, Dieu s'arrangera certainement pour punir celui qui doit être puni. C'est pas mes affaires. Moi, en ce qui me concerne, si je suis en prison, c'est que j'ai une mission en prison. Et c'est quoi ma mission en prison? Ma mission en prison, c'est d'essayer de voir peut-être quelqu'un qui va pas bien en prison, en tôle. Ça, c'est Yosef. Quelqu'un peut-être ne va pas bien. C'est-à-dire que Yosef, sa force, c'est de se dire, je ne rentre pas dans une situation de vengeance. Je me pose la question, comment je peux trouver ma mission ici où je me trouve? Pareil, qu'est-ce qu'on voit quand les frères de Yosef, plus tard, ils sont venus le voir et que tellement ils avaient peur quand Yaakov est mort. Ils se sont dit, c'est sûr qu'une fois qu'Yaakov va mourir, il va nous tuer. Il va nous faire souffrir. Ils ont envoyé un émissaire après la mort de Yaakov à Yosef. Ils lui ont dit, tu sais, c'est un mensonge. Ils ont dit, tu sais, papa, il a dit avant de mourir qu'il faut pas que tu nous en veuilles. Et qu'en vérité, bon, voilà, etc., faut que tu nous en veuilles. Et là, Yosef, il se met à pleurer. Ça raconte le Midrash, il se met à pleurer. Il dit, mais quoi, vous me soupçonnez que moi, vous pensez que moi, je vais faire ça? Oui, il dit, mais vous croyez que c'est vous qui m'avez envoyé ici? C'est Lohatem, chez l'Artemotiena. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui a Elohim? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici. Je sais pas si vous voyez la force de Yosef. Être capable de voir quand il y a un problème, de ne pas voir la personne qui m'a fait la crasse, mais de voir qu'en vérité, cette crasse me vient directement de qui elle me vient? Elle me vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça, c'est la force de Yosef. Donc, de la même manière, quand une personne me fait une crasse, pour répondre à ta question, Serge, et pour répondre à la question de ta question aussi, quand une personne me fait une crasse, m'a fait une crasse, une sale crasse, qu'est-ce que je me dis? Si je me dis que c'est lui qui m'a fait la crasse, alors dans ce cas-là, je lui en vais à lui. Mais si je me dis qu'en vérité, lui sera puni pour ce qu'il a fait. Mais en vérité, qui c'est qui a décidé que la crasse devait m'arriver? C'est Akadosh Baruch Hu. À qui tu en veux en vérité? Tu en veux à Akadosh Baruch Hu? Donc dans ce cas-là, tu relativises. Alors bien sûr, tu prends les distances avec les personnes-là. J'ai pas dit qu'on t'en loge ou pas dit ça. Tu prends ta distance, mais tu comprends dans ta tête, tu comprends quelque chose de très important dans ta tête, tu comprends qu'en vérité tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui apprend tout le temps à relativiser.
Oh, mais là, il y a eu la mort. Hein.
Quoi?
Là, il y a eu la mort dans l'histoire de.
Dans quelle histoire? De quelle histoire? Ça change.
Ah, bah, ça change que c'est pas une souffrance que.
Est-ce que vous croyez que. Attendez, je vais vous répondre à la question. Est-ce que vous. Des gens de 20 ans, pourquoi il ne fait pas ces trois arabes-là? Pourquoi ils ont fait une crise cardiaque quand ils ont essayé de le faire? Pourquoi il n'a pas fait Akadosh Baruch Hu?
C'est Hachem qui voulait, c'est tout.
Parce que Hachem voulait.
Ben oui.
Et c'est la volonté d'Hachem que ces juifs-là meurent.
Oui, mais on ne sait pas pourquoi.
D'accord. Seulement, on ne comprend pas.
Voilà.
On ne comprend pas. D'accord. C'est quoi?
Trois.
Non, j'ai parlé de trois qui ont tué. Le... Trois qui ont tué. Le... Il y a trois suspects.
La mère.
Évidemment, c'est pas chaud, c'est sûr. C'est exactement le cours d'aujourd'hui. J'ai pas fait exprès, mais c'est vraiment le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, on nous apprend qu'en vérité, un juif, il doit avoir la Emouna, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on rencontre même avec le roi David, une fois, il y a une personne qui l'a fait vraiment une crasse, quelque chose de très très difficile, et il a dit, j'ai la Emouna, que c'est Dieu qui t'a demandé de me frapper. Maintenant, lui, il sera puni pour ça. D'accord? Rabotaille. Justement. Ça veut dire comme ça. Est-ce que vous croyez que parce qu'une personne a décidé d'appuyer sur une gâchette, il va décider d'enlever la vie à quelqu'un d'autre? Qui il est pour enlever la vie à quelqu'un d'autre? S'il a réussi à enlever la vie à quelqu'un d'autre, c'est que Dieu a décidé que cette personne-là devait mourir. Seulement, il aurait pu mourir de plusieurs manières. Et lui, cette personne-là, ce mécréant, a décidé d'être l'émissaire du mal, pour véhiculer le mal, et pour être celui pour être le bourreau. Alors, pourquoi il sera puni? Il sera puni pour le fait qu'il a décidé d'être le bourreau. Pas pour le fait qu'il a tué.
Il faut bien bourreau.
T'inquiète pas, Hachem, il ne manque pas Arbed Rachel Amakom.
Il peut envoyer un bouquet qui tombe dans la montagne.
Il y avait l'histoire d'une... Il y avait l'histoire d'une dame, là, récemment, en Angleterre, qui avait été sauvée deux fois.
Incroyable.
D'accord? Deux fois, elle avait été sauvée.
Dans le bus.
Une fois, une explosion, une fois dans un avion, etc. Enfin, des trucs extra abracadabrants. Et une fois, d'un simple accident de voiture, elle est morte. Non, c'était vraiment un truc banal, un truc vraiment bête. J'ai envie de dire bête. Et pourtant, elle avait eu des chances énormes dans sa vie. Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il décide qu'on doit mourir, c'est là qu'on meurt. Dieu préserve. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'une personne a décidé d'enlever la vie à une autre qu'il va réussir. Ça n'existe pas, ça. D'accord? C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. C'est Hachem qui a décidé.
Mais il ne méritait pas.
Mais qui a parlé de mériter? On n'a pas expliqué pourquoi Dieu l'a fait. On a dit que s'ils sont partis, c'est que Dieu voulait qu'ils partent. C'est sûr, ça. C'est pas parce qu'un arabe a décidé qu'un juif doit partir que le juif va partir. C'est une évidence.
Il voulait qu'il parte.
Oui? Il devait partir. Pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas dans quel cadeau je vais en cours. Pareil pour les 6 millions, pareil pour tout ce que tu veux.
C'était des tzadikis, les petits.
Justement?
Ils ont jamais fait de faute de l'argent.
Peut-être c'est une capara, peut-être j'en sais rien, je sais pas.
Un beau club.
Je sais pas.
Un mois et demi à la vie.
On continue, ok? Bon, je voulais pas parler de. Je voulais pas faire un cours qui angoisse, mais c'est juste pour expliquer.
Non, c'est bien
la réalité. D'accord.
S'il est fou, le type, il est fou, on n'en parle pas. Mais il semble pas ne pas être fou.
Hachem, et pourquoi Hachem il a pas enrayé, Hachem il a pas enrayé des canons? Hachem il a pas fait qu'une balle peut être ratée? Hachem il a pas fait, il avait fait des miracles. Pourquoi il a pas fait des miracles pour ces trois? Pourquoi il a pas fait des miracles pour ces trois-là? Et pourquoi c'est ces trois et pas trois autres? C'est la chance, c'est le hasard? Et si c'est trois autres qui étaient en train de faire du stop?
On n'a pas dit ça. On a dit c'est, on parle de ce juif là. J'espère qu'il est fou.
T'es sûr qu'il est fou?
J'espère qu'il est fou. C'est tout ce que j'espère. Et qu'il n'est pas conscient de ça.
Mais on ne sait pas ce qu'il avait dans la tête. Imagine que, si,
il voulait la vengeance.
Imagine qu'il était à côté de son copain à Sderot et que son copain il a explosé en confetti. Tu comprends?
Il lui a fait boire, écoute-moi bien, il lui a fait boire de l'essence, il a cramé.
On ne sait pas. Peut-être qu'il aurait même mangé. On ne sait pas.
Moi je vous dis la vérité, les premiers jours, je n'ai pas cru. Moi. Je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont amener faire une enquête et montrer que c'est. J'ai pas tout. Moi, je crois que c'est.
On a distribué des bonbons.
Quand même. Bon, on continue. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a compris? Quelle est la deuxième arme rabotaille du Benoni? La deuxième arme, du premier arme du Benoni, c'est quoi? C'est le fait que le Benoni, son cerveau domine le cœur. Deuxième arme du Benoni, c'est quoi, hein? C'est le Réchim ou c'est la trace. Ça veut dire que le Benoni sait qu'une mitzvah laisse des traces. Donc il va essayer de se mettre, de faire un maximum de mitzvot qui laisse des traces et les espacer au maximum dans la journée pour faire en sorte que toute la journée il reste dans une ambiance de Torah. Et c'est grâce à cette trace-là qu'il va réussir à calmer son Yetzirah lorsque son Yetzirah lui envoie des idées tordues dans la tête. Lorsque son Yetzirah lui envoie des idées de vengeance. Lorsque son Yetzirah lui envoie des idées de haine. Lorsque son Yetzirah lui envoie des idées, des pensées interdites. Qu'est-ce qu'il va répondre à son Yetzirah? Il va lui répondre, il va lui dire, tu peux pas faire ça. Ça fait un quart d'heure, on est en train de faire la tefila, que tu mets des bêtises dans la tête. Attends un peu, reviens me voir dans une heure. D'accord? Ouais. Entre temps, tu fais une mitzvah, d'accord? Rappelle dans une heure. Il va te rappeler, ne crois pas, il lâchera pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Benoni comprend, d'accord? Et là, je parle de la vengeance. Pour la vengeance, le Benoni, il va s'expliquer à ce moment-là que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on a de la haine, comment on répond à la haine? On répond à de la haine par de l'amour. C'est comme ça que ça marche dans la Torah. Entre frères. Sauf bien sûr quand c'est des cas, dangereux, où il faut envoyer l'armée, etc. Mais il y a des autorités qui sont pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça, etc. Voilà, c'est un bonhomme d'armée. Vous savez que même les soldats, ils sont capables de faire la distinction. Quand ils sont en fonction, ils sont en fonction. Quand ils sont pas en fonction, c'est une autre personne. Quand il est en fonction, c'est une brute. Quand il sort de la fonction, c'est une douceur, c'est un amour.
Pourtant, il y a des religieux
qui... C'est très dur pour eux, qu'est-ce que vous croyez? C'est très très dur pour eux, les soldats, d'être comme des brutes, parce qu'il faut être comme un brute à la guerre. Et après, il revient à la maison, il doit s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est les réservistes. Comment tu vas faire? Il faut savoir que quand on est en fonction, c'est une chose. Mais quand on n'est pas en fonction, nous, on part de la base que quelqu'un, il t'a envoyé une crasse, toi, tu réponds par de l'amour. Surtout entre juifs. On répond jamais à une crasse par une autre crasse. C'est très difficile. Si on arrivait tous à le faire, on serait tous des tzadikim. Mais concrètement, dans la pratique, ça, c'est ce que le Benoni arrive, et on peut arriver à ça. Yosef est arrivé, on peut arriver à le faire. On peut le faire. Il suffit simplement de se convaincre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, ce qui m'est arrivé devait m'arriver. Donc finalement, pourquoi je lui en veux? Je lui dis, pourquoi toi qui es mon ami a été le bourreau qui m'a donné la claque? En d'autres termes, je devais recevoir une claque. Mais pourquoi toi, mon ami, comment toi qui es mon ami, t'as pu être le bourreau qui m'a donné la claque? Ça fait de la peine. On peut avoir beaucoup, beaucoup de peine. Et c'est peut-être même une peine qui est jamais... Il y a des fois des peines qui sont jamais récupérables. Des fois des peines, tu dis, mais comment un ami à moi, quelqu'un tellement proche, comment il a pu me faire ça? Il y a des peines qu'on peut jamais enlever. La peine, c'est une chose. Garde ta peine, y a pas de problème. Mais pas de haine. Pas de vengeance.
Ah bah c'est trop dur.
D'accord? On peut avoir la peine d'un côté, et d'un autre côté, je dis, bon, écoute, peut-être qu'il est passé parce qu'il est passé. La peine, on peut avoir. Ça, la peine, la Torah, t'as l'air pas d'avoir la peine. Donc, on reprend dans les mots. Le Benoni, il fait un effort pour ne pas penser, ne serait-ce qu'un seul instant, même un hirour, une arrière-pensée, une pensée négative. Et là seulement, Miyad va aliato les chats. Vous avez dans les mots? Allez, dans les mots. Donc, je suis à la page.
174.
Voilà. 174, en bas de la page. Et là seulement. Miyad ba'aliyato lesham dochehu b'shtei yadayim. Dès que la pensée monte dans sa tête, dochehu b'shtei yadayim, il le repousse de ses deux mains. C'est comment en français aussi il y a ce proverbe. Repousser de ses deux mains, ça veut dire quoi? Quand on dit repousser quelqu'un de ses deux mains, ça veut dire le repousser vigoureusement, énergiquement. Ça veut dire le repousser catégoriquement. Umasir dato miyad shenizkar sheiruah. Et dès qu'il se rappelle, dès qu'il réalise que c'est une mauvaise pensée, tout de suite, instantanément, à la seconde, il repousse la pensée. Veinome kablo beratson, il n'accepte pas cette pensée-là volontairement. Afilu leharerbo beratson, même pour penser ne serait-ce qu'un seul instant volontairement. Vechol sheken lehaloto aladat halato chase shalom ou afilu ledaberbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni il y pense en arrière-pensée, à plus forte raison qu'il n'y pense pas en pensée pour réfléchir comment je vais lui faire la crasse, d'accord? Et encore moins qu'il en parle. On va prendre un exemple concret. Imaginez une personne par exemple, d'accord? Imaginez une personne par exemple, quelqu'un lui a fait une crasse. Il y a trois étapes. Première étape, dans sa tête, il se dit, je le hais. Deuxième étape, il commence à réfléchir comment je peux lui rendre la crasse. Troisième étape, il en parle. Quatrième étape, il déchire. D'accord? Là, le Benoni, il arrête depuis la première étape. Ça veut dire que ni il le fait, ni il en parle, d'accord, ni il pense comment faire, comment rendre, et ni il pense comment ça l'a blessé. Il repousse son cerveau parce qu'il comprend que une fois que tu te laisses aller dans des pensées, après tu maîtrises plus. Une fois que tu te laisses aller dans des pensées, de te dire regarde ce qu'il m'a fait, etc. Les mots, c'est comme de l'essence. Les mots, t'as vu ce qu'il m'a fait, c'est comme de l'essence sur du feu. D'accord? Tu rajoutes l'essence, ça explose. Il faut tout de suite penser à autre chose. Et c'est ce qui fait le Benoni. Qui a meharer beratson, nikra racha botosha. Et là, il dit ce qu'on a expliqué tout à l'heure à l'oral. Que dès que je me rends compte que je suis en train d'avoir une mauvaise pensée, dès l'instant où je me suis rendu compte, si je continue à penser ne serait-ce qu'une seule seconde, je suis appelé racha à ce moment-là. Or, on a dit que le Benoni n'est pas un racha. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Benoni, il a un combat constant et dès qu'il se rappelle, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette sa pensée et il ne pense pas, ne serait-ce qu'un seul instant volontaire.
On n'a pas le droit de dire que le Benoni, c'est un rachat qui ne fait pas de faute.
Que quoi?
Que le Benoni, c'est un rachat qui ne fait pas de faute.
Non, parce que
ne pas faire de faute, c'est pas rachat.
Le fait même.